Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Vous y êtes là, plus au sud, dans ce bassin méditerranéen qui est un jardin et dont un arbre généreux produit la base de sa goûteuse cuisine, l'huile d'olive. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va faire aujourd'hui un tour d'horizon de l'huile, depuis l'olive qui rit à la palme qui manque, en passant par le tournesol qui pleure.
Et ma vinaigrette alors ?
On va aller chercher de l'huile, Jamy, de la bonne huile d'olive. Et tu sais où ? En Provence ! Allez Marcel, en Provence !
Quelle vidange !
Commençons par la star des huiles, cet extrait de l'olive aux multiples bienfaits, réels et supposés, un produit dont les pays du sud de l'Europe font l'essentiel du commerce mondial, jusque sur les tables chics des restaurants de Manhattan où le régime crétois a ses adeptes. On pourrait presque dire qu'avec l'huile d'olive, l'Union européenne tient une exception culinaire.
C'est un genre d'exception culinaire, effectivement. D'abord parce que le verger d'olive ou le verger d'oliveraie est essentiellement européen.
Marie-Josée Cougard est journaliste aux Échos, spécialiste de l'agroalimentaire.
La moitié du verger mondial se trouve en Europe. Donc, en revanche, il se développe aussi en Afrique et il existe aussi donc au Moyen-Orient. L'Europe est dans une situation très particulière quand on parle production agricole. C'est très très rare que, même si l'Europe est une puissance agricole, elle l'est depuis longtemps, et même si c'est le cas, c'est très rare que l'Europe soit un peu seule ou très largement en tête sur une production agricole encore aujourd'hui. Donc là, c'est le cas. L'Europe est très leader, très dominatrice sur cette production. Et à l'inverse de beaucoup d'autres spécialités agricoles, on ne voit pas la Chine ou l'Asie émerger et pas non plus les États-Unis. Donc c'est une vraie carte à jouer pour l'Europe. C'est un marché qui lui est presque offert sur un plateau.
Oui, le produit plaît toujours plus. Ses qualités sont saluées dans le monde entier. Comment évoluent d'ailleurs les exportations et peut-on craindre que ça ne soit qu'un effet de mode, comme il en existe parfois sur des produits alimentaires ?
En tout cas, pour ce qui est de la consommation en Europe, c'est très ancré. En revanche, oui, l'exportation se développe considérablement et s'est développée considérablement. La consommation mondiale a doublé en 25 ans. La consommation américaine a quadruplé. Et au Brésil, on parle de 5 fois plus. Le commerce mondial en valeur représente plus de 5 milliards. L'Europe fait les 3/4 du commerce mondial et avec les 3/4 du commerce mondial, elle totalise 4,3 milliards de dollars. Donc c'est un commerce assez important, mais si on met l'huile d'olive en regard de ce qu'on peut baptiser la planète oléicole, c'est-à-dire la totalité des huiles dans le monde, l'huile d'olive, malgré tous ces chiffres impressionnants, reste un nain. Parce que dans beaucoup de pays, d'autres pays que les pays d'Europe, on consomme abondamment de l'huile de palme, par exemple. Et l'huile de palme est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins chère que l'huile d'olive, hein. Ce qui explique les choses.
Et pendant ce temps, ça nous permet de préparer la pâte à huile.
Alors pour la recette, si vous n'avez pas le temps d'aller au moulin, comptez 250 g de farine, 150 g d'eau tiède, 8 g de sel, 80 g de sucre en poudre et bien sûr 125 g d'huile d'olive.
Toujours une huile d'olive évidemment de qualité, plutôt douce, pas quelque chose de trop puissant, de trop ardent.
Pour l'huile d'olive, est-ce qu'on peut parler d'un véritable or vert pour l'Europe ?
Oui, c'est un or vert dans le sens où l'Europe dispose d'un peu d'une autoroute quoi, pour l'instant. Tant que le continent américain n'a pas développé de plantations d'oliviers, ou tant que l'Asie ne s'y est pas mise. Et si ça ne s'est pas fait, il y a quelques raisons. Donc, puisque ça n'est pas le cas, elle a devant elle une ressource particulièrement valorisée. Aux États-Unis, c'est un petit peu comme sur beaucoup d'autres produits italiens. L'Italie a toujours un sens très aigu du marketing et surtout beaucoup d'efficacité. Donc, aux États-Unis, il y a énormément de pizzerias et de restaurants de cuisine italienne. Donc, l'huile d'olive, elle profite aussi et de la présence d'une communauté italienne de longue date, qui a installé depuis le 19e siècle, et puis de l'effet marketing et de la puissance de feu des Italiens quand il s'agit de vendre leurs produits. Ils chassent en meute et ils sont toujours très opérationnels.
Alors, si l'Italie a su gagner le marché américain grâce à une riche histoire commune, quel est le pays européen leader dans la production et l'exportation d'huile d'olive?
Clairement, c'est l'Espagne qui vient en tête. Elle fait 45% de l'exportation et elle doit faire, je crois qu'elle a 25% du verger mondial, puisqu'on est 50% l'Union européenne et 25% l'Espagne à elle toute seule. Donc c'est énorme. L'Espagne a un modèle très particulier. Elle est, à la différence de l'Italie, qui vient juste après elle, elle a développé une culture intensive de l'olivier, ce qui signifie des grandes oliveraies. Elle a recours à l'irrigation, elle a recours à la mécanisation. Ça lui permet d'écraser les prix. Donc, l'huile d'olive est deux fois moins chère en coût de production qu'en Italie. En Italie, les oliveraies sont plus familiales, plus artisanales, et on n'a pas recours à ces techniques d'intensification. À part peut-être un petit peu dans la région des Pouilles, où il y a quelques grandes exploitations.
C'est vrai qu'on associe mentalement davantage l'huile d'olive à l'Italie. C'est une question, peut-être, comme vous l'avez expliqué, Marie-Josée, pour les États-Unis notamment, d'un marketing efficace. Mais en réalité, il semblerait que les routes de l'huile d'olive italienne soient plus compliquées que ça. Expliquez-nous.
Oui, c'est assez étonnant, parce que c'est vrai que pour tout le monde, quand on parle d'huile d'olive, très souvent, on a le réflexe, en tout cas en France, on pense à Italie. Alors que l'Italie en produit beaucoup moins que l'Espagne, et alors qu'en fait, l'Italie, qui est très grosse consommatrice d'huile d'olive, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle on a cette idée, est obligée d'importer pour couvrir ses propres besoins. Mais, chose assez curieuse, comme il y a une guerre des prix incroyable sur l'huile d'olive en Italie, où il y a beaucoup d'intervenants, c'est un marché qui est en promotion permanente, si bien que l'huile d'olive est proposée aux consommateurs en Italie à 3 euros le litre, quand en France, on la trouve plutôt à 6, à deux fois plus. Et compte tenu de ce manque à gagner, en quelque sorte, dans la distribution, les Italiens, forts de leur importation, réexportent à partir de à la fois leur production et de ce qu'ils ont pu importer du bassin méditerranéen. Et d'où aussi cette idée que l'Italie est une... De toute façon, c'est un acteur important, mais elle vient après l'Espagne. Mais elle exporte beaucoup, et parce qu'elle valorise beaucoup mieux l'huile d'olive quand elle exporte. Donc elle préfère ce type de commerce plutôt que de voir laminer ses marges en vendant en Italie.
Marché américain pour l'huile d'olive, est-ce qu'il est toujours aussi prometteur et est-ce que éventuellement c'est avec une nouvelle consommation?
Il y a un engouement assez récent de la part des Américains pour l'huile d'olive et l'Espagne en profite aussi largement, toujours suivant son modèle de rentabilité et d'intensification. L'Espagne a créé ses propres usines d'embouteillage aux États-Unis, ce qui lui permet d'exporter en vrac. Donc, à beaucoup moins cher, et ça fonctionne plutôt très bien.
Alors, on l'aime partout, mais l'huile d'olive européenne est-elle de taille à rivaliser sur le marché de l'huile mondiale?
Non, mais je crois que la question ne se pose pas dans ces termes-là. Comme l'huile d'olive est toute petite par rapport à l'ensemble des autres huiles dans le monde, la question n'est pas là. C'est une huile très différente. L'huile de palme, par exemple, qui est très utilisée, est une huile neutre et qui n'a pas de goût, qui lui permet d'être utilisée dans le Nutella, par exemple, et dans énormément de produits alimentaires. L'huile de palme est présente dans presque toutes les fabrications alimentaires. Donc, on n'est pas du tout dans le même registre. Là, on est avec l'huile d'olive, on est dans le registre de la cuisine, de l'assaisonnement. Et donc, le goût de l'huile d'olive, au contraire, est très important. Et d'ailleurs, il y en a une grande diversité. Et l'huile d'olive, est, quand elle est très bonne, elle est fruitée, elle est intense, elle a un petit peu d'amertume. Elle est, bon, ça c'est pas sur le plan culinaire, mais sur le plan diététique, elle est aussi réputée pour sa concentration en polyphénol. Alors, elle a tout un tas de qualités que les autres huiles n'ont pas. On a un peu l'impression que c'est, on va dire, la star de la cuisine au milieu d'un ensemble de corps gras.
L'expert doit réchauffer l'huile avec ses mains pour que les senteurs se révèlent. C'est par le nez que l'on s'imprègne d'abord des notes olfactives de l'huile avant de la déguster. Toutes les papilles de la bouche sont alors stimulées, comme pour une dégustation de vin. L'objectif est d'analyser les arômes olfactifs et les sensations gustatives de l'huile d'olive.
Est-ce que du coup, l'huile d'olive hérite d'un statut de produit de terroir avec ses spécificités, comme peut l'avoir le vin par exemple ?
Oui, les pratiques sont très comparables à celles du vin, effectivement. Quand une exploitation d'olivier propose son huile, il y a des goûteurs, il y a des oléologues, comme il y a des œnologues, donc des spécialistes du goût de l'huile d'olive. Et l'huile d'olive donne lieu à dégustation, parce que chaque entreprise a un nombre considérable de fournisseurs. Donc elle choisit entre plusieurs fournisseurs. Une entreprise comme Costa d'Oro, qui a été rachetée il y a quelque temps par le groupe français Avril, chez Costa d'Oro, ils ont 175 fournisseurs. Donc l'oléologue, il est un peu comme le chef de cave. Et donc il y a dégustation, on a des petits verres devant soi et on goûte, on boit sa gorgée d'huile d'olive comme on boit une gorgée de vin en la faisant circuler dans la bouche. Ça fait tout un bruit très peu délicat et on recrache. Et comme ça, il y a une séance de dégustation exactement comme pour le vin qui donne lieu à une sélection drastique. Et ça va de l'extra vierge, qui est la qualité irréprochable. C'est la seule qu'on trouve en France d'ailleurs, à une huile qu'on appelle lampante, parce qu'elle est digne d'aller dans la lampe à huile. Il n'y a plus de lampe à huile aujourd'hui, mais quand on s'éclairait encore à la lampe à huile, l'huile d'olive qui n'était pas bonne, elle était classée lampante, et donc elle allait éclairer les gens. Aujourd'hui, elle est déclassée, elle sert à tout un tas d'autres usages, mais non alimentaires.
Et pour les plus fines et les plus légères, les tarifs sont inversement proportionnels, c'est ça ?
Oui, le prix est effectivement très supérieur. L'huile d'olive est en gros vendue 3 fois plus cher que les autres huiles. Alors, tout dépend du marché où on se trouve. Effectivement, si on veut acheter son huile d'olive pas chère, une bonne huile d'olive, on va l'acheter en Italie. Mais une fois qu'elle est arrivée sur les autres marchés, elle a grimpé un prix.
Au niveau européen, est-ce qu'on commence à assister à des regroupements entre acteurs de la filière ? Verrons-nous bientôt des géants de l'huile d'olive ?
En France, il y a un groupe qui s'appelle Avril, qui est connu du public pour des œufs qui vient de mettre en vente, d'ailleurs, qui sont les œufs Matine, et qui est en train de constituer un pôle oléicole très important. Et le public, les consommateurs en tout cas, le connaissent sans savoir, au travers des marques comme Puget ou Le Sieur. Et donc, plus récemment, il a acheté cette huile italienne qui s'appelle Costa d'Oro. Il s'est aussi installé en Roumanie et il est en train de se constituer un genre d'empire en Afrique, où ils ont racheté, il y a quelques années, Le Sieur Cristal, qui est au Maroc. Et à partir de Le Sieur Cristal, pour eux, l'acquisition de Le Sieur Cristal était très stratégique parce que c'est une tête de pont pour atteindre le reste du marché africain, en tout cas l'Afrique de l'Ouest et quelques pays d'Afrique centrale. Donc oui, il y a des entreprises qui émergent et qui se font une place au soleil.
On a l'image de l'olivier centenaire, ridé, solide, qui a l'air à l'épreuve des climats les plus arides. Mais craint-il le réchauffement climatique et en souffre-t-il déjà ?
C'est un petit peu comme toutes les cultures. L'olivier est une culture sensible à la canicule, au gel, à l'inondation. Donc, c'est évidemment, il y a eu aussi une maladie qui touchait tous les oliviers dans le bassin méditerranéen. Oui, c'est une culture fragile. On n'est pas dans la culture de rose, mais c'est une culture qui est bien sûr exposée, comme toutes les autres cultures, aux aléas climatiques. Et il y a des recherches dans ce domaine, comme dans la vigne, comme dans beaucoup d'autres, pour faire en sorte que les plants soient plus costauds, plus rustiques, est plus apte à supporter des agressions climatiques. Ouais.
Ce dont on vient de parler, c'est l'huile plaisir, la rare, la chère aussi, dont on use avec parcimonie. Alors que dans l'alimentaire ou la restauration, l'huile est une base dont il faut des quantités industrielles. Pour produire et cuisiner des chips et des frites, bien sûr, mais aussi toutes sortes de panais, de sauces, de pâtes à tarte, de viande marinée, de lécithine pour le chocolat ou les glaces, etc., etc. L'huile végétale, c'est une matière première. Et en ce moment, il y a de la friture dans le secteur. Le tournesol est captif de la guerre en Ukraine, qui est le plus gros producteur. Les trois quarts du commerce mondial sont figés. Face à la pénurie d'huile de tournesol, les industriels français ont même été autorisés à modifier les recettes de certains produits sans changer les emballages. Parce que c'est un processus long, complexe et coûteux pour les marques. Alors que là, on est dans l'urgence. Tandis qu'on cherche des alternatives dans le colza, les prix montent.
L'huile est l'élément central de la cuisine, souvent la première étape pour faire un plat. Pour 20 litres d'huile, nous sommes passés de 25 euros à quasiment 75 euros. Le prix a triplé.
Et c'est là que tous les regards se tournent vers l'Indonésie et ses palmiers à huile. J'ai demandé à Étienne Goetz, journaliste aux Échos et spécialiste des matières premières, si à la faveur de la situation, l'huile de palme redevenait fréquentable.
Il faut quand même rappeler qu'elle a toujours été fréquentable pour une très grande partie de l'humanité. En Asie ou en Afrique, l'huile de palme ne fait pas du tout l'objet des polémiques et des débats qu'on peut avoir en Europe. C'est un des ingrédients de base pour l'alimentation. Et puis, par ailleurs, il faut aussi rappeler que l'huile de palme et les huiles en général, on en trouve absolument partout, dans les cosmétiques, dans les savons par exemple, ou même dans des rouges à lèvres ou dans d'autres produits comme l'encre des imprimantes, mais on en trouve aussi dans les carburants, notamment dans les biodiesels. On ajoute un peu d'huile de palme ou d'huile de colza en Europe principalement pour rendre ce carburant un peu moins dépendant de l'énergie fossile. Donc l'huile de palme a toujours eu la cote, et elle a toujours la cote, et elle aura sans doute encore pendant de longues années encore la cote. Et en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde des huiles végétales, ce qui a été déclenché par la guerre en Ukraine, qui a un impact direct sur l'huile de tournesol, on peut imaginer raisonnablement que la demande en huile de palme va augmenter dans les semaines et les mois qui viennent.
Qui la produit le plus ?
En Asie du Sud-Est, il y a deux pays qui produisent essentiellement l'huile de palme, c'est l'Indonésie et la Malaisie. Le premier producteur de loin, c'est l'Indonésie, puisque, et c'est le premier exportateur au monde, c'est 80% des exportations, et en tonnage, ça représente un peu plus de 30 millions de tonnes chaque année. L'Indonésie, c'est le principal producteur, mais c'est aussi un très grand consommateur, parce que l'Indonésie a une population extrêmement grande. Son voisin, la Malaisie, produit énormément aussi, mais consomme beaucoup moins. Ce qui fait que sur les exportations, la Malaisie est très très importante. Et puis après, il y a aussi quelques pays africains qui produisent et exportent de l'huile de palme.
Du coup, la guerre en Ukraine provoque-t-elle une explosion de la demande d'huile de palme pour ces pays ?
Oui, il y a une très forte demande en ce moment d'huile de palme. Et c'est assez général et c'est particulièrement vrai en Indonésie. Comme je le disais, c'est une huile qui est très importante dans la consommation des ménages. Et on a localement des pénuries, des prix qui flambent et des centres de distribution d'huile de palme à prix subventionné qui sont pris d'assaut par les Indonésiens. Donc localement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une colère qui monte et même des manifestations. Les Indonésiens étudiants sont descendus dans la rue pour dire leur colère contre la hausse des prix et demander une intervention des autorités publiques. Le prix de l'ensemble des huiles avait commencé à monter bien avant la guerre en Ukraine. Parce que, comme je disais, l'huile, on en utilise aussi pour les agrocarburants. L'huile de palme avait un autre problème, c'est que la production a été assez compliquée ces deux dernières années pendant la pandémie. Donc il y a eu une pénurie de main-d'œuvre, une météo pas très clémente et une production pas toujours au rendez-vous, ce qui explique aussi la hausse des prix récentes. Aujourd'hui, on est autour de 1 500 $ la tonne d'huile de palme. Ça a pu atteindre 2 000 $ il y a quelques mois.
Quelle a été la réponse politique à cette crise et quelles seront ses conséquences sur le marché mondial ?
Alors c'est la réponse politique traditionnelle, c'est du nationalisme agricole. Le président Joko Widodo a décrété un embargo sur les exportations d'huile de palme le temps que les prix se stabilisent et reviennent à des niveaux plus supportables pour la population. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la hausse de l'huile de palme, les pénuries de bidons d'huile de palme, ça a entraîné, donc, comme je disais, des manifestations, ça a entraîné une ruée dans les supermarchés, et le président a vu sa cote de popularité s'effondrer du jour au lendemain. Donc il a été obligé d'intervenir. Il intervient avec cet embargo qui a été annoncé la semaine dernière, en fin de semaine, avec quelques détails qui sont arrivés en début de semaine suivante, mais là, ça devait concerner quelques produits raffinés, et aujourd'hui, on apprend que finalement, l'embargo serait sur toutes les huiles, et même y compris l'huile de palme brute. Donc, les détails de cet embargo sont assez compliqués à connaître et à bien maîtriser, notamment pour comprendre l'impact que ça va avoir sur les marchés des huiles végétales. Ça change de jour en jour, voire d'heure en heure. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va avoir un impact phénoménal sur l'huile de palme, donc sur l'huile de soja, donc sur l'huile de colza, donc sur l'huile de tournesol, etc., etc. Donc le marché des huiles va être fortement secoué dans les semaines qui viennent. Ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne sait pas trop. Ce que disent les autorités indonésiennes, c'est que ça durera le temps qu'il faudra pour que le marché se stabilise et revienne à des niveaux plus acceptables. Et puis ça dépendra à plus court terme aussi de ce qui se passera en Ukraine. Est-ce que la guerre va se poursuivre encore longtemps ? Est-ce que l'huile de tournesol va recommencer à sortir d'Ukraine pour aller être exportée en Europe notamment ? Quelle sera la production ukrainienne et russe cet été ? Et plus généralement, la grande question, c'est de savoir ce qui va se passer sur l'huile de colza, l'huile de soja, l'huile de tournesol dans l'hémisphère nord cet été, puisque la production de l'hémisphère nord sera très importante pour déterminer l'orientation des prix. Et les experts que j'ai interrogés me disent que là, en la matière, il n'y a aucune place pour un accident climatique, quel qu'il soit.
Merci à Marie-Josée Cougard et Étienne Goetz, journalistes aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.
Switching to Shopify helps you sell smarter at every stage of your business. Take full control of your brand with your own custom online store.
Wow, looks amazing.
Find more customers with our easy-to-use marketing tools.
Piece of cake.
And let the best converting checkout on the planet do its thing. Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Switch to Shopify today for a $1 a month trial at shopify.com/listen. Shopify.com/listen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.